Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire douloureuse de Raphaël, un gamin de Lunel, dans l'Hérault, parti faire le djihad en Syrie à l'été 2014. Cette histoire, c'est l'histoire de Laurent et Liliane, un père et une mère qui, un matin de juillet 2014, à Lunel, dans l'Hérault où ils habitent, reçoivent un coup de fil de leur fils Raphaël.
Allô ? Maman ?
Oui, mon chéri.
Maman, je dois te le dire, j'ai fait la hijra. J'ai rejoint mes frères en Syrie.
La maison leur tombe sur la tête. Il est parti il y a une semaine à Paris, en stage. Donc il leur a menti. Il n'était pas à Paris, il a rejoint l'État islamique en Syrie. À 22 ans, leur fils unique est devenu l'un de ces djihadistes dont on parle à la télé. Et pourtant, je vous le jure, rien, vous entendez, rien ne l'y préparait. Sauf peut-être sa sensibilité, son hypersensibilité. Les parents, le père est informaticien, juif, mais pas du tout pratiquant. Et la mère est psychologue. Alors, à quel moment est-ce que cette histoire a vraiment commencé? C'est difficile à dire. Quand il était ado, Raphaël était un gamin vif. Il jouait aux échecs, il faisait de la guitare, il a même eu son propre groupe de rock, Futark, ça s'appelait. Il aimait les Pink Floyd et les Red Hot Chili Peppers. À un moment, il a même été DJ. Et avec ça, beau gosse, brun, 1m90, les yeux bleus, il avait pas mal de succès au lycée Louis Feuillade de Lunel. D'ailleurs, récemment, il avait une copine. Les parents la connaissaient. Il avait eu son bac, ES. Voilà quoi, la vie d'un jeune Français moyen, plutôt privilégié en plus. C'est juste après qu'apparaissent les premiers signes inquiétants. Raphaël s'inscrit à la fac de Montpellier. Ça n'est jamais facile, ce passage à l'autonomie. Au lycée, on est encadré, surveillé. À la fac, si on décroche, on décroche. Personne ne vient vous chercher. Raphaël a décroché. Fini la fac. Mais bon, il donne des cours de guitare, il donne des cours d'anglais. Il joue de la guitare dans les rues de Montpellier. Il fait le DJ dans les soirées. Mais surtout, c'est à ce moment-là qu'il tombe sur un autre glandeur. Un vieux copain de lycée, Oussem. Le pauvre gamin vient de perdre sa mère. Il lui dit que c'est l'islam qui l'a sauvé. Et pour le père, c'est là que ça commence.
Il a rencontré par hasard Oussem Mousli. Oussem lui a parlé de cette religion, lui a raconté sa vie et a, de ce que j'ai compris, effectivement touché une fibre affective très forte, puisque Raphaël m'a dit qu'à l'issue de cet échange, il avait pleuré comme un bébé. Et ce détonateur, on va dire, cette espèce d'émotion très forte qu'il a ressentie, et ce discours que lui a tenu Oussem, qui ont fait que Raphaël s'est intéressé et a pris la décision très rapidement de se convertir.
Raphaël attend quand même sa majorité pour se convertir. Mais juste après ses 18 ans, il va voir sa mère et il lui dit « Maman, je viens d'avoir 18 ans, je crois que j'ai fait mon choix, je vais me convertir à l'islam. » Comment ça? Pourquoi tu veux faire ça? Les parents, évidemment, ne comprennent pas. La religion est un truc totalement étranger à la famille. Raphaël a été élevé dans une culture laïque. Et maintenant, il veut se convertir à l'islam. À 18 ans. Mais bon, ils lui donnent leur accord. Tant qu'à faire, autant garder le contact. Vous dire qu'ils sont à l'aise, non. Ils disent qu'il veut s'affirmer, qu'il se cherche, que ça va passer. Et comme à côté, finalement, après ce passage à vide à la fac, c'est un bosseur qui, à 19 ans, intègre une école d'informatique à Montpellier, il ne s'inquiète pas trop, enfin au début. Parce qu'assez vite, la religion prend de plus en plus de place dans sa vie. Il est toujours fourré chez cet Oussem et son frère Sabri. Au début, le père lui interdit d'aller à la mosquée. Ça dure un an. Et au bout d'un an, il y va quand même. La mosquée Al-Baraka de Lunel. Une mosquée toute neuve, inaugurée en 2010 dans la zone commerciale. Il y passe de plus en plus de temps. il prend des cours d'arabe, il participe à l'organisation d'événements et aussi à des actions pour réislamiser les musulmans. Il y a même des soirs où il dort à la mosquée. Les parents commencent à avoir peur, très peur.
Raphaël ainsi que les autres, perpétuellement en fait, avaient des petites animations, faisaient des choses à la mosquée. Ils réalisaient effectivement, alors qu'il était à peine expérimenté dans la région musulmane des prêches, qu'il y a des choses qui se passent off. Effectivement, Raphaël avait ce qu'ils appellent des assises, voilà, chez des particuliers où ils avaient des échanges religieux.
À un moment, Raphaël va même faire des retraites dans les Cévennes avec ses amis de la mosquée. Les parents pensent que juste après, ce sont des photos venues de Syrie qui ont été le déclic. Des photos de gamins, les yeux grands ouverts, morts. Et après, ça va très vite. Raphaël annonce qu'il a décidé de se soumettre à l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Donc, fini la petite amie. Bye bye. Et maintenant, il refuse de faire la bise aux filles. Évidemment, il ne boit plus d'alcool. Et le plus sidérant, c'est qu'il arrête la guitare. Sa passion. Pourquoi t'arrêtes la musique, Raph? T'adores ça? Ouais, tu sais, dans la musique, il y a des paroles qui sont pas correctes. Regarde les chansons de Led Zeppelin. Si on inverse les mots, ben, tu retrouves des tisses de Satan, hein? Il va voir un de ses copains tard, un animateur de la MJC, qui lui avait proposé de venir animer un atelier musique avec les gosses. Il avait dit oui. Il vient lui dire qu'il a changé d'avis.
J'ai tout jeté. Les partitions, les instruments. Maintenant, si tu veux me parler, viens à la mosquée. Sinon, j'ai plus rien à te dire.
Je voudrais que vous vous mettiez à la place des parents. Leur fils unique s'est fait embrigader par une secte islamiste. Leur souci à eux, c'est de garder le contact, de ne pas rompre le dialogue. La mère, à un moment, pour garder coûte que coûte le contact avec son fils, se convertit à l'islam. Elle était catholique, elle devient musulmane, par amour maternel. Et elle se renseigne, et elle lit tout ce qu'elle peut sur le Coran. Vous savez ce qu'elle cherche? Elle cherche des arguments pour convaincre son Raph qu'il s'est trompé de chemin, que sa lecture du Coran n'est pas juste. À la télévision, on parle de plus en plus de ces Français qui partent faire le djihad. Le père saisit l'occasion.
Regarde, Raphaël. Putain, regarde. Tu vois ces jeunes qui sont partis? Ils sont partis se faire tuer. C'est pas l'islam, ça. Tu comprends?
Papa, je te jure, je vais pas partir. Arrête de t'inquiéter.
Et le pire, c'est que pendant ce temps-là, Raphaël est un très bon étudiant. C'est le paradoxe. Sur ce plan-là, ses parents ne peuvent rien lui reprocher. Il termine sa troisième année dans son école d'informatique. Et son école lui propose d'aller passer sa quatrième année quelque part dans le monde. Il choisit un pays arabe, bien sûr. Le Bahreïn. C'est un petit pays coincé entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il y va 9 mois, de septembre 2013 à mai 2014. Et les parents, qu'est-ce qu'ils en disent de ça? Le Bahreïn, les parents se disent que c'est un vrai pays musulman, que ça va l'aider à se construire, à se structurer dans cette religion. En gros, que les Bahreïnis vont lui remettre les idées en place. Ce qui, entre nous, est un peu naïf. Le Bahreïn est un État sunnite assez libéral. Mais comme les autres, il est travaillé par les forces du mal. Cela dit, la mère va le voir à Bahreïn pendant qu'il est là-bas. Elle y passe 3 semaines et elle rentre rassurée. En mai 2014, Raphaël revient à Lunel. Et dès son retour, il retourne à la mosquée. Dès son retour! Et il se met à passer des heures sur Internet. On sait maintenant qu'à cette époque, il parle à des gars partis là-bas, en Syrie. Des gars de Lunel. Il se chauffe. À la rentrée prochaine, Raphaël doit attaquer sa 5e année d'école d'informatique. Et il doit décrocher un stage en alternance. Donc, il doit aller à Paris pour des entretiens. Il est prévu d'y passer 3 jours. Quand son père le voit descendre avec sa valise, Il est un peu surpris. Le gamin part 3 jours à Paris et il a une valise énorme.
Mais attends, Raphaël. T'as vu la taille de ta valise? Tu pars pour combien de temps? Arrête ça. Elle est normale, ma valise. J'ai besoin de plein de choses. Tu te rends pas compte?
Le 16 juillet 2014, Raphaël dit au revoir à ses parents. Il s'est rasé la barbe, il porte un costume bien taillé, il ne part que 3 jours à Paris. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi? 5 jours plus tard, le 21 juillet, la mère reçoit ce coup de fil qui la cloue au sol.
Allô? Maman?
Oui, mon chéri.
Maman, j'ai fait l'Hijra. J'ai rejoint mes frères en Syrie.
La grosse valise. C'était donc ça. Raphaël est parti pour un bien long voyage. Et il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec Sabri, le frère de son copain Oussem, qui n'est même pas majeur. Ils se sont retrouvés à Barcelone et de là, ils ont pris un avion pour Istanbul, en Turquie. Ils sont allés retrouver là-bas toute une bande de jeunes de Lunel, une vingtaine de gamins qui les ont précédés dans cette folie. Au téléphone, Raphaël veut rassurer ses parents. Il n'est pas parti faire la guerre, il est parti faire de l'humanitaire.
Les motivations dont il nous fait part au téléphone sont d'ordre humanitaire. Raphaël, apparemment, on va dire que les forces qui l'ont amené à prendre cette décision étaient des forces qui, d'ailleurs, de mon point de vue, ont toujours été les ressorts qui l'ont maintenu, hein, effectivement, à l'intérieur de cette forme que moi je désigne de sectaire et endoctrinaire, qui sont effectivement la victimisation, hein, donc l'envie effectivement de répandre du bien et d'apporter effectivement des solutions à une forme de peine.
Dans les semaines qui suivent, les parents se tournent vers la justice. Ils portent plainte contre X pour endoctrinement sectaire. Ils disent aux policiers de Montpellier tout ce qu'ils savent. Ils veulent savoir qui a endoctriné leur fils, qui lui a fourgué ses idées folles, qui a changé un gamin un peu trop sensible de Lunel en djihadiste. Ils n'ont aucun retour. Aucun. De temps en temps, Raphaël appelle de Syrie par Skype. Et une fois de plus, leur priorité, c'est de garder le contact.
Raph, on voudrait avoir un contact avec toi tous les jours. Ça te va, ça? Comment est-ce qu'on peut te joindre? On peut t'appeler tous les jours.
Je vais faire au mieux. Je ne peux pas te promettre quelque chose qui n'est pas sûr, hein. De temps en temps, il y a des coupures d'électricité dans la ville. Bon, après, c'est prévu, hein. Il y a des groupes électrogènes. Mais en tout cas, je t'assure, là où je suis, c'est vraiment tranquille, hein. Comme je t'ai dit, depuis que je suis arrivé, je n'ai entendu aucune explosion, ni quoi que ce soit.
Et tous les jours, les parents guettent le petit voyant vert sur leur ordinateur qui indique si Raphaël est disponible, s'il est connecté. À chaque appel, il jure qu'il ne participe pas au combat, qu'il ne tue pas des gens, qu'il est venu pour aider.
Je ne manie pas les armes, hein. Arrêtez de vous inquiéter. Faites-moi confiance. Allez bon, je vous embrasse. Je vais m'occuper de faire voler un drone et tourner une vidéo.
Il nous dit qu'il fait de l'aide auprès des populations. Et comme il est informaticien, effectivement, on l'établit dans une espèce de baraquement dans lequel il est censé apporter des solutions informatiques aux petits problèmes techniques. Il fait aussi partie de ce groupe, dont certains sont combattants. Et ils se retrouvent le soir tous dans des baraquements communs, semble-t-il.
D'après ce qu'il dit maintenant, il vit à Chadadi, dans une maison qu'il partage avec des copains. Il travaillerait à la propagande de Daesh et ferait des films, des images. Parfois, les conversations entre la mère et le fils sont assez touchantes. Un jour, Raphaël a mal à la gorge. Sa mère lui dit
« Il faut que tu prennes une infusion de thym et du citron si t'as mal à la gorge. »
Du thym et du citron. Pauvre maman. Alors qu'en vérité, à ce moment-là, Raphaël est devenu un émir de Daesh. Il est monté en grade. Il a maintenant son propre bureau. Mais bon, il garde le contact. C'est toujours ça. Et maintenant, il leur promet même que d'ici la fin de l'année, ils vont pouvoir se voir.
Je viendrai sur la frontière turque. Ouais, vous pourrez venir en septembre. Ou au pire en décembre, quoi. Enfin, juste avant Noël, quoi.
Ce rendez-vous n'aura jamais lieu. Et pour cause. Le 20 octobre 2014, ça fait 3 mois que Raphaël est parti. Une femme de la communauté musulmane de Lunel vient sonner à la porte.
Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Voilà. Je suis venu vous dire que votre fils, Raphaël, il a été tué lors d'un bombardement de l'armée de Bachar el-Assad à Deir ez-Zor. Regardez, j'ai une photo.
Les parents apprendront plus tard que Raphaël était sur le front, avec d'autres jeunes comme lui, sans jamais avoir subi aucun entraînement. On l'a envoyé à la mort. Blessé, il aurait passé plusieurs jours sur un grabat, dans un hôpital de fortune, avant de décéder. Ils apprendront aussi que Sabri a été tué, et son frère Oussem, et un autre de leurs frères, Ahmed. 4 gamins de Lunel. Le maire de la ville est désemparé.
Ça commence à faire beaucoup. J'espère que ceux qui seraient encore aujourd'hui tentés, que ça leur ouvre les yeux et qu'ils seront beaucoup moins tentés de partir. Moi, je me sens totalement impuissant devant ces départs qu'on ne voit pas venir. C'est l'affaire de l'État, quoi.
Est-ce qu'il y a un problème de radicalisation spécifique à Lunel ?
Je ne suis pas sûr, bien que. Il faudrait peut-être y regarder de plus près. Ce qu'on pourra faire, je n'en sais rien.
Assez vite, on se tourne vers la mosquée. Est-ce qu'il y a un problème avec la mosquée de Lunel ? Les responsables de la mosquée mettent des semaines à s'exprimer. Et leurs explications tardives sont atterrantes.
On a beaucoup entendu que Lunel, la mosquée, était le bastion de l'État islamique, tout ça. C'est des accusations mensongères qui sont complètement fausses. La mosquée de Lunel n'est pas une agence de voyage pour la Syrie. La mosquée de Lunel n'a pas du tout encouragé les départs. L'imam de la mosquée a une position complètement neutre au niveau de la géopolitique.
Et puis, quelques semaines plus tard, intervient l'attentat contre Charlie Hebdo.
La France frappée par le terrorisme, c'est l'attentat le plus meurtrier sur le sol français depuis au moins 40 ans. 12 morts et une vingtaine de blessés en fin de matinée à Paris, au siège du journal Charlie Hebdo. 2 hommes lourdement armés ont fait éruption au moment de la conférence de rédaction de l'hebdomadaire satirique. Fusillade intense, des tirs encore dans la rue au moment de leur fuite. Donc 12 morts, dont 2 policiers et des dessinateurs de Charlie Hebdo. Cabu, Volinsky, Charb, Tinus, ils sont tous morts.
Du coup, dans le contexte, en février 2015, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, vient à Lunel.
Je suis venu à Lunel et je commencerai par cela, dès lors qu'il s'agit de la question de la République, pour dire la très grande détermination et la très grande fermeté du gouvernement pour combattre le terrorisme partout où il est susceptible d'agir et de frapper. Parce que dans l'esprit qui est le mien et conformément à ce qu'ont exprimé le président de la République et le Premier ministre à plusieurs reprises, je veux dire avec la plus grande clarté et la plus grande fermeté ici à Lunel qu'aussi longtemps que ce gouvernement agira, il n'y aura aucun sanctuaire pour les terroristes en France. Aucun.
À ce jour, les parents de Raphaël n'ont aucune nouvelle de la plainte qu'ils ont déposée pour savoir qui a endoctriné leur fils. Évidemment, ils n'ont pas pu récupérer son corps. En souvenir, ils ont planté un magnolia dans le jardin de leur maison.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.